de la philosophie grecque à la personne humaine. Sixième cours, le vivant. L'expérience du travail ou de l'activité artistique réclame une connaissance de la matière transformée par l'homme, puis de la nature, puisque la matière appartient à l'univers physique. De même, l'expérience de l'amitié et de la communauté politique, finalisée par l'homme ami et l'homme membre d'une communauté humaine, implique de connaître l'homme en tant qu'être vivant. Car la personne, avant d'être amie, et bien qu'étant amie, est d'abord un être vivant de vie humaine. Que représente la perte d'un ami ou d'un être cher dont la mort met un terme souvent brutal à l'expérience de l'amitié? Disparu, l'ami qui était vivant ne l'est plus. Il ne l'est plus en tant que vivant de vie humaine, mais il reste vivant et parfois plus vivant encore dans la mémoire de son ami. Qu'est-ce que le vivant ? Nous avons l'expérience de ce que nous sommes. Nous respirons, nous mangeons, nous voyons, nous touchons, nous courons, nous pensons, nous travaillons, nous souffrons, nous aimons. Il s'agit bien d'opérations du vivant que nous sommes tous en tant qu'homme ou femme. Elles dépendent de nous et nous sommes la source ou la cause de toutes ces opérations. La cause aussi, en tant que nous pouvons pâtir ou souffrir de ce qui advient à d'autres personnes que nous, en particulier notre famille et nos amis. Nous nous mouvons dans ces opérations. Nous ne sommes pas seulement mus en tant que réalité physique par notre corps. Nous saisissons à l'intérieur de nous-mêmes qu'elles dépendent de nous, que nous sommes l'origine de ces opérations. Elles sont en nous et elles viennent de nous. On ne peut pas avoir l'expérience des opérations vitales d'un autre que nous, de la même manière que nos propres opérations, car elles sont intérieures ou immanentes à nous-mêmes. Nous les expérimentons en nous et pour nous. Notre corps, qui est partie de l'univers, possède, en tant que vivant, une autonomie qui se manifeste à travers ses diverses opérations. Tout en dépendant du milieu dans lequel il se trouve, le vivant a son rythme propre. Il se sert de ce milieu et crée son propre milieu de développement autour de lui. C'est étonnant, surtout quand on regarde les grands vivants tels que les arbres, comme le chêne ou le cèdre, les animaux comme le lion, l'éléphant ou l'aigle. Être vivant spirituel, l'homme réalise pour lui, pour sa famille, pour ses amis et pour d'autres encore, son propre milieu de vie. Il domine ce milieu qu'il transforme en se l'appropriant. La découverte de l'âme. Face à l'interrogation « qu'est-ce que le vivant ?», il est nécessaire d'aborder les opérations vitales en se demandant d'où elles viennent. Quelle est leur origine? Et en vue de quoi sont-elles? Quelle est leur finalité? Nous observons par nous-mêmes et nous devons reconnaître qu'il y a en nous un phénomène d'intériorité que les autres ne peuvent pas saisir, qu'ils ne voient pas de l'extérieur, par exemple, ce que nous pensons. Si ce qui se voit extérieurement peut s'expliquer par le fonctionnement de notre corps organique, ce qui est intérieur à nous-mêmes n'est pas toujours une fonction de notre corps, mais appartient à la vie de notre intériorité. On l'appellera le psychisme. Ce sont les effets de la vie psychologique sur notre personnalité. Nous avons d'ailleurs plus ou moins conscience de cela quand nous évoquons le conscient ou l'inconscient. Qu'est-ce que le psychisme en nous? D'où vient-il? N'y a-t-il pas un amour de soi dont nous avons conscience? Cette auto-lucidité, cet amour de soi, ne se ramène pas seulement à l'exercice de notre corps. Nous pouvons discerner ce qui est sensible et ce qui ne l'est pas, ce qui est au-delà du sensible, mais qui fait partie de nous-mêmes, de notre être, de notre vie. Au-delà de la connaissance sensible, au-delà du visible, il y a quelque chose d'invisible en nous dont nous sommes conscients, qui fait que c'est nous et pas un autre qui unit toutes nos opérations et qui en est la source. C'est ce que l'on appelle l'âme. L'âme fait l'unité de toutes nos opérations humaines, visibles et invisibles. Elle est la source cachée de nos opérations vitales, de notre vie. La vie est complexe, parce que l'homme est complexe. Et l'homme est complexe, parce que la matière indéterminée, soumise au contraire, aux contrariétés, dit-on au plan psychologique, est déterminée par la forme qui, elle-même, l'est par la finalité. Tout cela est donc complexe. C'est l'âme qui fait l'unité dans la complexité de notre vie. Elle fait l'unité dans la diversité des opérations de notre vie, dans la complexité de notre corps et de notre esprit. Nous ne savons pas ce qu'est l'âme. Nous ne la voyons pas, mais elle nous semble distincte du corps tout en étant dans le corps. Pour mieux comprendre l'âme, il faut revenir à nos diverses opérations. La respiration, la nutrition, la sensation, les passions, la pensée, la volonté ou la souffrance. En les étudiant, en les analysant pour chercher à comprendre leur diversité, puis pour en saisir l'unité, pour saisir ce qui fait l'unité dans la diversité, l'unité radicale et foncière dans la multiplicité et la complexité. Le vivant respire, se nourrit, agit, pâtit, pense, souffre, aime. Ce qui unit donc ces opérations, c'est le vivant lui-même. C'est donc moi-même dans mes opérations. Cette source qu'est l'âme est cachée, immanente en soi, en nous. Elle informe le corps parce que nous sommes un dans nos opérations, dans notre vie. Elle fait l'unité et, en même temps, elle manifeste le caractère unique de notre vie et de notre être. Il y a donc en nous-mêmes une source de vie qui informe le corps, qui fait l'unité du corps et qui est cause de vie, principe de vie. En ce sens, il y a une unité substantielle entre l'âme et le corps. L'homme composé d'une âme et d'un corps est un. Il ne s'agit pas d'une union entre deux êtres ou deux choses distinctes qui sont ensemble par une sorte de fusion, mais d'une unité radicale de vie et d'être. Il y a cette unité profonde en nous-mêmes, en vous-même, quand vous écoutez et en même temps quand vous respirez et vivez. Le corps est donc la cause matérielle, substantielle de mon être vivant. Mon corps a une vie biologique que je peux mesurer, quantifier, tandis que mon âme ne peut pas être saisie comme un organe vivant, ni mesurée. Elle est découverte par l'intelligence, dans sa recherche, mais aussi par l'expérience de cette unité en nous-mêmes. Notre connaissance du vivant par l'âme est inductive, l'intelligence induit par nature. C'est sa nature, sa spécificité, son principe de fonctionnement. Le mot « intelligence » vient de « intus legere » en latin, ce qui signifie « lire de l'intérieur ». Elle pénètre, creuse la réalité pour en saisir les principes et les causes profondes. C'est cela l'induction, qui est le sens contraire de la déduction. Quand je déduis, je pars d'une cause et je vois un effet. J'en déduis quelque chose. En sens contraire, quand j'induis, je pars d'un effet et je remonte à une cause. Sans cette activité inductive qui lui est propre, l'intelligence n'en reste qu'à la description, donc à ce qui est extérieur et superficiel dans son fonctionnement, qu'à ce qui quantifie sans qualifier. C'est ce que l'on fait bien souvent sans s'en rendre compte, d'où nos manques d'intelligence. On décrit, mais on n'induit pas. La connaissance de l'âme, si qualitative qu'elle soit, demeure imparfaite, parce qu'elle est principe de vie et qu'elle nous échappe. La connaissance scientifique ne peut rien dire sur l'âme qui lui échappe. Elle peut en saisir certains effets, mais non les causes. Par contre, la philosophie peut dire que l'âme est principe et cause de vie, ce que ne peut pas affirmer le scientifique. Nous voyons là que la philosophie ne s'oppose pas à la science. Elle est complémentaire, chacun dans son domaine respectif. Pourquoi opposer la philosophie et la science? Elles ont chacune leur part d'analyse au niveau qui est le leur. D'où leur complémentarité fait la richesse de leurs découvertes respectives pour la recherche de la vérité et par conséquent pour un réel progrès au service de l'homme. Les différents niveaux de vie. Entre les opérations vitales, nous pouvons saisir un ordre naturel. Les unes sont plus dépendantes du corps et les autres plus libres. Les unes sont plus liées au devenir, à la vie physique, les autres à l'intériorité, à la vie intellectuelle. Aussi, nous pouvons distinguer trois niveaux de vie. La vie végétative, la vie sensible, la vie de l'esprit. la vie végétative se manifeste dans l'assimilation, très liée au corps organique et à sa dépendance de l'univers physique. La vie sensitive ou sensible est celle avec qui apparaissent la connaissance et les passions. Elle se manifeste dans l'assimilation dite intentionnelle. On devient l'autre sans le modifier en le connaissant. La vie de l'esprit est la plus cachée. Elle se manifeste dans la vie supérieure de l'esprit par le jugement d'existence, le respect de l'autre, le sens profond de la vie. Cette distinction des trois niveaux de vie permet de structurer le développement de la vie humaine. La structure de base est la vie végétative, qui a sa propre finalité. Le sommet de la vie de l'homme est dans la vie de l'esprit. Il dépend de cette base dans son exercice, tout en ayant son indépendance et sa finalité propre. Entre les deux, nous avons la vie sensible ou sensitive avec les sensations, l'imagination, les passions. La vie végétative. Le premier moment de la vie végétative se situe quand le vivant s'enracine dans un autre vivant, la mère, puis se développe jusqu'au moment où il s'en détache en étant capable d'avoir son autonomie vitale. La vie végétative est commune à l'homme et à l'animal, avec des modalités variant selon les espèces. Pour les animaux, l'éléphant et la tortue, par exemple. Ce premier moment est marqué par la dépendance du milieu de vie. Bien que le petit être soit déjà autonome dans son être, il possède son chiffre biologique propre, les marques de sa propre structure, tout en étant fragile et dépendant. Dès la naissance, on remarque qu'il respire par lui-même, qu'il se nourrit par sa mère, qui n'est pas sa source vitale, mais alimentaire, qui le protège et le défend des risques de la vie. Le petit cherche l'équilibre entre attirance de son milieu maternel et opposition avec son milieu extérieur dans une lutte pour affronter la vie. À une période donnée, son développement sera marqué par sa capacité de fécondité avec la puberté. Une mutation profonde s'opère alors. L'instinct sexuel se manifeste. L'homme, comme vivant, peut normalement procréer pour assurer la survie de l'espèce. Autant la respiration et la nutrition se traduisent par une sorte d'individualisme vital, donc pour vivre, autant l'instinct sexuel se réalise dans une coopération au niveau de l'espèce entre deux sexes complémentaires, l'un pour l'autre, pour donner la vie. La vie alimentaire et la vie sexuelle ont chacune leur finalité propre. Au plan des finalités biologiques, on peut dire que l'aliment est pour l'individu, tandis que l'instinct sexuel est pour l'espèce. Ce qui signifie que l'aliment est ordonné à l'instinct sexuel comme l'individu est ordonné à l'espèce. La procréation finalise la vie végétative. Si l'assimilation caractérise fondamentalement la vie végétative, la fécondité achève le vivant en engendrant un autre vivant. Certains philosophes grecs y voyaient un signe de l'éternité. Il y a dans l'espèce un au-delà du temps, dans la continuité sans limite de la vie transmise. Père et mère engendrent un petit ayant son autonomie de vie et d'être, donc ayant son âme individuelle. D'où vient l'âme ? Est-elle commune avec celle des parents ? Provient-elle d'une origine extérieure ? Au plan de la vie végétative, on peut dire que le vivant transmet une vie semblable à la sienne, comme le grain de blé engendre un autre grain de blé. Enracinée dans la matière, la vie est victorieuse de la matière. Autant la matière a ses limites, autant la vie écarte ses limites en se transmettant et en donnant à la fécondité sa finalité par la procréation. Avec l'âge, la vie végétative décline jusqu'à la mort. L'individu connaît une vieillesse où l'unité biologique de l'homme perd progressivement sa vitalité. La division pénètre jusqu'à la séparation radicale de l'âme et du corps. La vie sensible. Dans la vie végétative, l'homme, comme tout être vivant, ne commande pas la nature à laquelle il appartient. S'il a un pouvoir naturel, dans l'acte de procréation, il n'a aucun pouvoir sur sa finalité naturelle. Ces opérations de vie végétative ont leur propre finalité en restant déterminées par la nature. Par exemple, l'alimentation est ordonnée à la nutrition, puis au corps, sa croissance et sa vie. Par contre, l'homme peut avoir un certain pouvoir sur ses sensations et sur ses passions par la conscience et par la maîtrise de ses propres actes. Ainsi, le contact de l'homme avec une réalité extérieure, par la connaissance qu'il acquiert d'elle, l'atteint dans sa vie intellectuelle et sensible, sans modifier la réalité elle-même. Quand une personne regarde une fleur, par exemple, la fleur n'est pas changée. C'est l'homme qui est changé dans sa sensibilité. Par contre, quand une personne touche une fleur, celle-ci peut flétrir par le contact physique. On précise dans ce cas que le contact physique est réel, tandis que le contact visuel est intentionnel, n'existant que dans l'intelligence, dans la pensée et non dans la réalité. Nous voyons là deux types de connaissances sensibles différents. On peut en déduire que la vision peut nous permettre de devenir au sens des couleurs et de la lumière, comme pour les autres sensibles propres, le toucher, l'odorat et le goût au contact des réalités. Il faut remarquer que certaines sensations, comme le mouvement et la grandeur, sont saisies par plusieurs sens à la fois, tandis que d'autres, comme la lumière, le chaud ou le froid, le son ou le bruit, ne sont saisis que par un seul sens. D'où la distinction entre sensible propre, un seul sens, et sensible commun, plusieurs sens pris en commun. Met en évidence deux perspectives. Pour Aristote, l'objectivité de nos sensations se fonde sur les sensibles propres. Pour Descartes, comme nos sens nous trompent, l'objectivité se fonde sur les sensibles communs, car seuls ils sont mesurables et par là même objectifs. Les sensibles propres donnent une unité fondamentale, d'où l'aspect qualitatif. Tandis que les sensibles communs donnent la mesure, d'où l'aspect quantitatif. Nous voyons là la primauté de la qualité sur la quantité, avec Aristote, et de la quantité sur la qualité, avec Descartes. Ne pourrait-on pas en déduire que ce qui est traditionnel est fondé en premier lieu sur la qualité, et ce qui est contemporain ou moderne l'est sur la quantité? Ce sont deux critères si différents, impliquant deux perspectives dont découlent deux regards quasi opposés sur la vie. Une autre remarque doit être formulée. Par la vision, nous sommes transformés intentionnellement, c'est-à-dire non pas au plan physique, mais au plan de la pensée et du psychisme. En effet, l'intentionnalité n'est que subjective. Quelque chose est dans la pensée sans être dans la réalité. De même, quand on lit un livre, une revue, ou quand on apprend quelque chose, notre intelligence acquiert une connaissance sensible par une médiation écrite ou orale. Telle est la conséquence de la connaissance sensible qui atteint le réel sans le modifier, mais modifiant la pensée intentionnellement, par la connaissance reçue ou perçue du réel. Nous reviendrons souvent sur l'intentionnalité, qui est le pouvoir immanent de l'intelligence. Il s'agit d'une transformation par une capacité sensible de pâtir, de réagir, d'être déterminé, une capacité que l'on nomme en termes philosophiques une puissance, qui n'est pas du pouvoir de dominer, mais de pouvoir d'être capable d'eux. Prenons un exemple. Pour la vision, quand les yeux sont fermés, ils sont en puissance de voir, puisque la capacité de voir est ordonnée à la vision. La capacité ou la puissance, dynamis en grec, est ordonnée à l'acte. En regardant une fleur, j'assimile ou je fais mienne sa couleur ou sa forme, sans que cette forme de la fleur ne soit modifiée par mes yeux. C'est le caractère propre de la connaissance sensible qui se situe au-delà du devenir physique, mais dans un devenir immanent, psychisme et intellectuel. Il en est de même pour de nombreuses expériences de la vie quotidienne, pour certaines banales et courantes, pour d'autres originales et exceptionnelles. Les représentations imaginatives. En fermant les yeux, après avoir regardé une fleur, une image de la fleur se forme en soi. Une représentation de la fleur s'imprime en soi, plus ou moins nette, selon l'expérience reçue des sens puis vécue. Cette image est sensible sans être réelle. Elle engendre un nouveau type de connaissance qui vient de l'extérieur, mais formé et actué à l'intérieur de soi. Car les images reçues de la réalité sont conservées en une synthèse de ce qui a été vu, vécu et ressenti. Dans l'analyse philosophique, les images sont des formes intentionnelles, reçues par les sens, donc sensibles. Elles représentent la réalité d'une manière subjective, mais sans être réelles. Leur source est l'intelligence qui les reçoit, puis forme une nouvelle connaissance par l'imagination en dehors de la réalité. Ainsi, nous développons en nous-mêmes un monde imaginaire infini. N'ayant pas de limite, puisqu'elle n'est pas en contact direct avec la réalité, l'imagination n'a donc pas de finalité propre. Les images reçues, plus exactement les représentations imaginatives gardées en mémoire, peuvent être utilisées par l'intelligence et par la volonté, par l'amour. Elles alimentent la vie sensible en stimulant les passions et les sensations, formant le tissu de notre psychisme. L'imagination entre dans la zone de nos refoulements, conscients ou inconscients, que Freud a mis en évidence. Il s'agit d'une intériorisation de certaines activités vitales. Elle les synthétise après les avoir reçues de la réalité. C'est ainsi que l'homme se referme sur lui-même en construisant un univers imaginatif dont il fait son pouvoir, son indépendance, qui n'est pas son autonomie. Car l'autonomie n'est pas l'indépendance. L'autonomie implique le point de vue de la finalité, tandis que l'indépendance est sans finalité. L'homme garde en mémoire des images au-delà du temps, même si avec le temps elles se diluent. Parfois, des images fortes marquent étonnamment la vie sans disparaître, comme une empreinte au fer rouge. C'est ainsi qu'est formée la mémoire. Comme nous l'avons dit, si la procréation manifeste l'au-delà du temps dans la vie végétative, la mémoire réalise l'au-delà du temps dans la vie sensible. La mémoire stocke des images reçues, tandis que l'imagination les associe entre elles en les renouvelant, formant ainsi de nouvelles représentations imaginatives. Le rêve est issu, pour une part, des sensations vécues, de l'affectivité mêlée à l'inconscient. Les passions. Chez l'homme, les sentiments affectifs, qu'ils soient attirance, répulsion ou colère, se retrouvent chez les animaux. Instinctifs chez l'animal, ils peuvent être dominés et intériorisés chez l'homme. Des états d'exaltation comme de dépression caractérisent la complexité du psychisme humain. Quelles sont ces tendances passionnelles? Elles viennent de nous et demeurent en nous, déclenchées par une intentionnalité affective qui est un élan passionnel au niveau de la sensibilité. Cet élan peut être un bien sensible désiré, mais difficile à acquérir, comme un mal sensible à rejeter. Il faut distinguer deux types de passions. Les passions dans l'ordre du concupiscible et les passions dans l'ordre de l'irascible. La passion du concupiscible, née de l'amour sensible, du désir de jouissance portant sur un bien sensible. Ce bien sensible provoque un amour passionnel qui rend présent intentionnellement le bien désiré. Pour être attiré, il faut connaître le bien sensible. D'où provient un amour ? La passion comprend trois moments, le désir, l'amour et la jouissance. L'amour-passion est une union affective connaturalisant celui qui aime avec l'être aimé. Tandis que le désir-passion est un élan affectif vers un bien sensible qui n'est pas encore possédé. puis la jouissance et le repos passionnel, épanouissement, l'affectivité sensible dans le bien possédé. On peut donc constater une triple relation entre désir, amour et jouissance. Parallèlement à ces trois passions à l'égard d'un bien sensible, on peut distinguer trois passions face à un mal sensible, qui sont comme trois anti-amours. La haine face à l'amour, la fuite face au désir et la tristesse face à la jouissance. Mais attention, jamais le mal n'est premier. Un mal n'existe pas en tant que réalité. Il est une négation, la négation d'un bien. Il existe en tant que privation d'un bien. Le mal s'étudie en tant que conséquence d'un bien manquant ou perdu. Citons l'exemple d'un acte injuste. Il est étudié comme absence d'un acte juste. L'injustice est l'absence, le contraire de la justice. Donc, pour comprendre l'injustice, il est nécessaire de comprendre ce qu'est la justice. Il en est de même pour la maladie par rapport à la santé. La maladie est la privation de la santé. Pour comprendre la cécité ou la surdité, il faut préalablement comprendre la vision ou l'audition. La passion de l'irascible naît de l'audace qui est la lutte pour atteindre un bien difficile à conquérir. L'espoir de conquête prend alors la place du désir et peut se transformer en crainte lorsqu'il s'agit d'un mal violent subi. Il peut engendrer l'angoisse qui est une inhibition affective enfermant l'individu sur lui-même.